Retour à Locarno avec nos invités pour parler donc de cinéma avec vous, Fernand Melgar pour Vol Spécial, Julie Gilbert et Frédéric Chauffat pour Mangrove dès mercredi à Locarno. Raphaël Boucher, on précise donc qu'on parle du film suisse en compétition internationale.
Oui, on peut dire que la Suisse fait vraiment bonne figure dans cette compétition, puisque voilà, moi j'ai vu à peu près la moitié de la compétition jusqu'à tout à l'heure, je sors d'une projection, et je trouve que vos deux films sont vraiment parmi les propositions les plus passionnantes de cette édition, je le dis en toute honnêteté et sans aucune flagornerie. Donc deux films très très différents, aux ambitions, aux propos, aux esthétiques très différentes. Vol Spécial, Fernand Melgar, est un huis clos documentaire, sans voix off ni commentaire, une immersion dans le centre de détention de Framboise de Genève. Vous avez suivi le quotidien de requérants d'asile déboutés en attente d'une expulsion. Vous, Julie Gilbert et Frédéric Chauffat, votre film Mangrove, vous l'avez tourné au Mexique, sauf erreur, c'est une fiction. Un film quasiment sans parole, presque contemplatif, dont l'ambiance sonore est omniprésente et la photographie absolument magnifique. C'est assez difficile de résumer l'histoire. On peut dire que c'est l'histoire d'une femme qui retourne dans un pays d'Amérique latine avec son fils. On comprend qu'elle y a passé peut-être son enfance, qu'elle y a vécu des choses assez difficiles. On comprend en fait au fil du film le sens de sa quête dans cet endroit.
Exact. Moi, j'aurais une première question pour vous trois. Déjà, vous signalez qu'on va commencer par parler du film de Fernand Melgar, mais que vous êtes invités les uns et les autres à vous poser des questions respectives sur votre travail. Première question quand même à vous trois, Frédéric Chauffat, Julie Gilbert, Fernand Melgar. Se retrouver comme ça en compétition internationale à Locarno, qu'est-ce que ça représente pour vous? Qui veut commencer? Frédéric Chauffat.
Être à côté de Fernand, c'est un vrai plaisir et un vrai honneur et un vrai bonheur.
Oh, ça va.
Non, mais c'est vrai. Non, mais... Nous trois, on est là ensemble malgré tout. Donc tout le monde dit vous êtes en concurrence. Il n'y a pas de concurrence aucune. Il y a un plaisir partagé d'être là. Être à Locarno, c'est toujours un plaisir. On est déjà venus les uns et les autres plusieurs fois avec des films. L'être en compétition internationale, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vrai que c'est le sommet de la sélection des Sinoises. Et pour un film, quand on l'a, quelles que soient les manières, quelle que soit la façon dont on l'a fait, soit très engagé comme celui de Fernand, soit avec très peu de moyens et de cœur, tout comme celui de Fernand d'ailleurs pour nous, d'arriver là et d'avoir la chance d'être en sélection internationale, c'est une chance incroyable.
Julie Gilbert, il y a beaucoup de stress et d'angoisse aussi avant la projection pour le public.
Il y a forcément du stress parce que, en l'occurrence, on n'a pas du tout présenté le film avant. Donc même par exemple, Vima Lapons, qui est la comédienne, elle ne l'a pas vu en entier. Donc je pense que le moment donné où on sera sur scène et on aura le public devant nous, je stresse à l'avance, mais c'est sûr que c'est une sacrée émotion.
Et pour vous, Fernand Melgar, vous aussi, vous êtes déjà venu avec des films à Locarno. Vous avez d'ailleurs remporté le Léopard d'Or il y a 3 ans pour La Forteresse.
Je ne vais pas contrarier mes amis. Hein. D'ailleurs, vous parlez de deux films, on peut parler de trois films suisses. Je veux dire, à l'instant maintenant, Milagro Mumenthaler, une jeune réalisatrice que certains attribuent à l'Argentine, ce qui est vrai par ses origines, mais qui est de Genève, hein, qui présente à l'instant un film suisse, quand même sur une compétition, trois films suisses.
Mais je précise que ce film-là, on l'a un petit peu moins apprécié. Voilà.
N'empêche que, comme vous dites, ce sont des propositions de cinéma, il faut les saluer, on est trois, je veux dire, on est un petit pays quand même, mais on voit qu'on a une cinématographie très vivante. Et quand vous parlez de la compétition internationale, que ça n'éclipse pas toutes les autres films, il y a une très grande cinématographie suisse, à l'instant, Appellation Suisse, Cinéaste du Présent, les courts-métrages, les écoles, on casse du sucre des fois sur le cinéma suisse parce qu'on dit que ce ne sont que des querelles de clochers, mais quelle production, très sincèrement, je veux dire, quelle vitalité aujourd'hui on représente ici. Je crois que on va pas se congratuler parmi, mais je veux dire, on est là parce qu'on est un peu mis dans la lumière et c'est magnifique, surtout pour des films comme les nôtres qui sont quand même des films assez singuliers et qui sont, je dirais pas difficiles, mais quand même, je veux dire,
qui sont risqués tout de même.
Voilà, j'ai entendu une très belle phrase hier, je vais essayer de m'en souvenir parce que j'ai peu dormi et j'ai beaucoup bu, mais j'ai trouvé très beau, c'était une phrase de Pier Paolo Pasolini, corrigez-moi pour ceux qui la connaissent, mais la culture est une forme de résistance au divertissement.
C'est ça, exact. Elle est juste.
Voilà, et ça je trouve magnifique, voilà, et c'est une phrase qui donne à penser, ça veut pas dire qu'on doit faire des trucs chiants, mais quand même, ça fait du bien de temps en temps de faire des choses qui permettent de faire quand même une certaine quête et une certaine réflexion. Et c'est aussi ça, voilà, le cinéma.
Alors après ce premier petit tour de table aux uns et aux autres, après cette première prise de température, on va se concentrer sur votre film, Fernand Melgar. Je crois que vous avez eu le temps de voir son film, tous les deux, Julie Gilbert, Frédéric Chauffat. Donc sentez-vous libre également de lui poser des questions. On a déjà d'abord envie de vous demander si vous l'avez conçu comme une forme de suite à la forteresse.
On peut la voir comme une forme de suite, mais quand j'ai fait La Forteresse, je n'ai pas jamais pensé que j'allais faire une suite. Et je pourrais même vous dire que je n'aurais pas voulu qu'il y ait de suite à La Forteresse. Voilà. Il s'est trouvé qu'il y a eu des circonstances qui ont été liées indirectement au film, mais qui est une des personnes du film Fahad Kamas de La Forteresse, avait été, au moment où je présentais le film à Locarno, il y a 3 ans, lui s'était fait expulser. À l'époque, c'est un nom que personne ne connaissait, mais s'était fait expulser par vol spécial. J'étais à Locarno, je présentais le film, lui, pieds et poings liés, était expulsé, pas directement en Irak, mais était expulsé en Suède. Et c'est quelque chose qui m'avait rendu profondément triste. Je dirais pas que ça m'avait gâché la fête, mais voilà, j'ai très fort pensé à lui. Et pour moi, un des très 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 grand moment pour moi, c'est quand j'ai présenté le film, Fahad était là, ça n'avait pas été réfléchi à l'avance, d'un coup ça m'est remonté, il était là, on était ensemble, et il est monté sur scène, et la réception qu'il en a eue, ben voilà, je trouvais qu'il y avait quelque part une injustice qui avait été réparée, voilà, il y avait un lien.
C'était un moment très émouvant, hein, samedi, lorsqu'il est monté sur scène à vos côtés pour parler du film précédent et de sa présence ici. C'était étonnant aussi de voir à quel point le public... Après, c'était identifié peut-être à son parcours. Les gens ont applaudi chaleureusement. Ils ont également réagi à certains moments pendant le film Vol spécial. Hein, un petit peu comme si le public était engagé et réagissait un peu à l'américaine quoi, pendant le film. C'était assez étonnant, j'ai trouvé.
Oui, on sentait que l'ambiance était bien électrique. Je trouve que Locarno, c'est une particularité. Je pense que ceux qui viennent à Locarno savent un peu ce que c'est, mais pour ceux qui ne viennent pas à Locarno, vraiment, je les invite à courir, venir voir ce festival. C'est une salle où il y a quand même près de 4000 personnes, la sala, et le soir, c'est une pièce à grande.
Le Févi.
Ouais. Donc, les autres salles, il y a quand même des salles de 800 personnes et tout. La pièce à grande, ces jours, il y a eu un peu moins de monde parce qu'il y a eu quelques gouttes sur la pièce, mais c'est quand même près de 8000 personnes. Mm-hmm. Donc, ce sont des ambiances uniques. Je veux dire, quand une salle rit ou une salle s'exprime, on sent qu'il y a quelque chose qui porte le film, et là, en tout cas, c'est très fort. Et pour ce film-là, en l'occurrence, sur un sujet qui est assez difficile, mais sur lequel voilà, j'ai décidé de porter un regard là-dessus. Et juste pour finir, parce que je digresse un peu, comme vous parlez de la suite de Vol spécial, c'est parce que j'ai eu cette aventure avec Fahad, qui aujourd'hui il est en sécurité, il est ici, il vit en Suisse, tout à fait légalement, qu'il s'était fait emprisonner à Framboise, très concrètement. Et c'est comme ça que j'ai connu cet endroit, et c'est ce qui m'a donné envie d'y retourner, parce que j'ai rencontré ses compagnons de misère. Et c'est quelque chose qui m'a tellement bouleversé, et j'en parle autour de moi, on ne me croyait pas cette situation de ce qu'on appelle la détention administrative, c'est-à-dire qu'on enferme aujourd'hui en Suisse et en Europe, hein, on n'est pas les seuls dans cette spécialité-là, des gens qui n'ont commis aucun crime. Le seul crime qu'on peut leur reprocher, c'est de ne pas avoir de statut légal, d'être ce qu'on appelle des sans-papiers. Alors, on peut être par exemple un requérant d'asile, au moment où on vous refuse l'asile, vous devenez un sans-papiers, vous êtes prié de quitter le pays, et une des conséquences d'une loi qui a été votée de manière populaire, hein, c'est une loi démocratique qui a été votée par le peuple.
En 2006
Non, en 1995, elle existe depuis...
Je pensais au durcissement de la loi sur l'asile.
Alors, il y a eu de très nombreux durcissements, mais elle existe depuis... On emprisonne des gens depuis 1995, et j'ai l'impression que j'en avais jamais entendu parler. Et c'est quand même 8000 personnes en Suisse en 2008. J'ai pas encore vu les chiffres de 2009 et 2010, mais je pense qu'on peut être pessimiste.
Et il s'agit de gens, je dirais, au bout du parcours, hein, c'est-à-dire qui ont épuisé pour la plupart les voies de recours, et qui sont vraiment véritablement au bout d'un processus, ce qui les met dans une situation assez singulière.
Oui. La Forteresse était un film, je dirais pas d'ouverture, hein, mais c'est un film qui était quand même porté par l'espoir de gens qui arrivaient ici dans ce pays, qui posaient leur valise, ça pouvait être une semaine. Pour certains qui obtenaient l'asile, c'était voilà, la possibilité de recommencer une vie. Et c'est clair que Vol spécial, on peut le voir comme la porte de sortie. Et à partir de là, ce qui est singulier, c'est que les personnes qui se retrouvent là-dedans, évidemment malgré elles, quand on est condamné, quand on a fait un crime, on est condamné, on sait pourquoi on va faire une année de prison. Et en fait, chaque jour est un pas vers la liberté, dans le fond. Voilà, on peut voir ça comme ça. Ici, dans ce cas-là, c'est la fin. C'est, le directeur lui-même compare cet endroit à un couloir de la mort. Et les mots qu'il utilise sont...
Je suis contente que vous utilisiez ce mot-là, parce qu'on en parlait entre nous, et on se disait que dans leur gentillesse, il y avait un petit peu de la gentillesse, peut-être même de la condescendance, qu'on peut accorder à des personnes condamnées à mort. Ça nous a fait penser à ça.
Et surtout l'attente, le fait que le couperet tombe quand on ne le sait pas.
Quand on s'y attend moins. Ouais. Et on parle de personnes qui sont des gens qui sont... Je veux dire, on ne va pas mettre une échelle de valeur, mais on y trouve aussi bien des gens qui ont demandé l'asile il y a 6 mois, que des gens qui sont là depuis 10 ans en Suisse, qui ont femmes, enfants scolarisés, qui travaillent. Hein. Il faut savoir qu'il y a des sans-papiers, on ne le répète pas assez, il y a 150 000 sans-papiers en Suisse qui travaillent, qui cotisent aux assurances sociales, qui sont un moteur de notre économie parce qu'il n'y a qu'eux qui sont d'accord de travailler dans des conditions terribles et qui font des travaux qu'on ne fait pas. Et la très grande hypocrisie de ce système, c'est que de temps en temps, on s'en débarrasse parce qu'il faut maintenir un peu le collet serré et qu'il faut faire un petit semblant de justice, mais tout ça fonctionne sur une immense hypocrisie.
Mais Fernand Melgar, la forteresse avait fait beaucoup de bruit à l'époque, donc comment ça s'est passé quand vous avez demandé les autorisations de tourner à Framboise? Vous étiez un peu connu de leur service finalement, déjà?
Alors, pas connu de tous les services en fait, il faut le savoir, et je vais être assez bref parce que c'était très compliqué d'obtenir les autorisations. La forteresse était sous la coupe de la Confédération, l'Office fédéral des migrations, qui à l'époque, voilà, j'ai fait la demande, on me l'a accordé, dans le fond, il n'y avait pas rien de méchant dans ma demande, puis de faire ce film, donc j'ai eu cette autorisation. Entre-temps, nos relations se sont un petit peu tendues à cause justement de Fahad, quand même, pour ceux qui ont suivi la presse, je ne me suis pas fait les meilleures amitiés au niveau du département de justice et police, mais tout ça, c'est toujours été très cordial. Aujourd'hui, il faut savoir que la forteresse est utilisée comme film d'entreprise par l'ODM, comme film qui donne à toutes les personnes, les jeunes recrues qui arrivent, pour avoir un petit peu une certaine vision de l'asile. Mais quand j'ai demandé l'autorisation pour tourner à Framboise, c'est une autorisation cantonale. Il y a 28 centres en Suisse, grosso modo un par canton, on ne va pas faire le détail. Framboise est pour Vaud, Neuchâtel et Genève. Les cantons m'ont dit oui parce que très rapidement, les conseillers d'État, M. Lebas, M. Hénard à l'époque, M. Boutineau, ont dit, écoutez, votre démarche est intéressante, elle permet de mettre une certaine lumière avec une certaine objectivité sur une réalité, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que l'ODM, d'une part, l'Office des migrations, l'Office fédéral des migrations, dont dépend, si vous voulez, l'exécution du renvoi, les cantons sont chargés de garder les personnes, la Confédération est chargée de les expulser, l'action de les expulser. Donc c'est ce qui concerne l'entravement, ce qui est aujourd'hui au cœur de la polémique, ces entravements qui tuent des gens, 3 personnes.
Alors,
déjà.
On y reviendra précisément, hein, parce que c'est un moment très important dans votre film. J'aimerais qu'on écoute un extrait, parce qu'il y a une des choses qui est frappante à Framboise, que vous avez choisi, et je vous ai entendu après la discussion avec le public, vous avez dit j'aurais pu choisir un centre beaucoup plus difficile que celui-là, Zurich par exemple, où les détenus sont enfermés 23 heures sur 24. Et ici, il y a une des choses qui surprend et qui fait débat, je dois dire aussi auprès des spectateurs, après le film, c'est la gentillesse du personnel. Je propose un premier extrait de votre film. On entend Denis qui est un surveillant du centre, qui demande à Wandifa est un détenu, s'il a bien reçu son thermos de thé.
Wandifa, tu m'entends, Wandifa? Oui, on t'a apporté la thermos?
Non.
Est-ce que tu peux boire avec Mohamed?
D'accord,
Ben. Merci, Abel. T'en prie, à tout à l'heure, Wandifa.
Oh, t'es top, ça. Merci, Wandifa. Merci. Et continue à écrire comme ça, Wandifa. Tire à loin.
Franchement, c'est assez fou d'entendre Denis, ce surveillant de prison, s'adresser à des détenus. D'abord, il leur fait give me five, hein, donc il se tape dans la paume de la main. On a presque l'impression à certains moments qu'il est des leurs. Et il l'encourage, il lui dit tire à loin. Et bon, en ce qui me concerne, non, mais ça participe aussi du malaise et je dois dire des discussions qu'on a après
cynique,
le film.
C'est presque cynique en fait.
Alors pas du tout.
Alors pourquoi autant de gens comme
spectateurs? Alors moi j'aimerais juste terminer une question, mais poser une question, j'ai pas fini de réponse, c'est très important. Très brièvement, l'ODM, l'Office fédéral des migrations, ne m'a pas donné l'autorisation de filmer la dernière étape. Et la réponse m'a déconcerté, je vous la donne, après avoir insisté, parce qu'au début ils ont fait la sourde oreille, je ne recevais aucune réponse, ils m'ont dit, écoutez, il existe une ordonnance fédérale qui... interdit de filmer une personne dans une situation dégradante ou humiliante. Je tombais des nues, ça veut dire qu'on peut dégrader et humilier quelqu'un, mais il ne faut surtout pas le filmer. Et en fait, j'ai eu la réponse très récemment, on m'a dit, mais c'est à cause de l'affaire du fils Kadhafi. Vous savez, quand la police a transmis des photos, et c'est à partir de là qu'il y a eu une espèce d'embargo. Voilà, je l'ai compris, mais sur le moment, c'était ça.
Donc c'est à cause du fils Kadhafi que vous n'avez pas pu filmer les vols spéciaux, c'est ça?
C'est à vérifier. Mais en tout cas, c'est là où j'ai trouvé une première ébauche de réponse. Mais en tout cas, quand on me l'a donné, de dire on ne peut pas filmer, ça veut dire que dans ce pays, on dégrade et on humilie des personnes, des humains.
Bon. On admet en tout cas que la situation est suffisamment dégradante pour ne pas la filmer.
Voilà. Et c'est dégradant au point que des gens en meurent. Je veux dire, c'est ça qu'il faut retenir. Et quand on n'en meurt pas, on emporte des profondes séquelles psychologiques et physiques. On a vu des personnes qui n'en sont pas encore remises de cette situation. Ça, très, très, très concrètement, les personnes qui se font expulser se font saucissonner d'une manière effroyable. C'est des vols qui peuvent durer 40 heures, sur laquelle la personne ne peut pas bouger un orteil, baigne dans ses propres excréments et est livrée pieds et poings liés, je veux dire, dans des états, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer. La Fédération Suisse des médecins a donné une recommandation à tous les médecins, parce que l'ODM demande que des médecins accompagnent ces vols, dire, premièrement, c'est contraire à notre éthique médicale, mais deuxièmement, vous ne pouvez pas intervenir s'il y a un malaise. Le temps qu'on détache cette personne décède, et c'est ce qui s'est passé très concrètement avec le Nigérian. Une autopsie qui a été faite deux fois a été contestée, et contestée à nouveau. On essaie de noyer le poisson, mais là, et l'autre soir, j'ai fait sur le journal de 19h30, Micheline Calmire était là.
À vos côtés.
Elle a vu le film, et en tout cas, moi qui étais à côté d'elle, j'ai bien entendu, mais je pense que tout le monde a entendu. Micheline Calmire, c'est la première personne au niveau du Conseil fédéral qui a dit il faut cesser avec ces pratiques dangereuses qui ne se sont pas dans la tradition humanitaire de la Suisse. Elle s'exprimait clairement, elle a dit on ne peut plus continuer comme ça.
J'aimerais juste revenir quand même un instant sur le malaise et peut-être vous entendre tous deux en tant que spectateurs sur ce malaise malgré tout qu'on ressent par rapport à cette gentillesse.
Vous savez,
parmi le personnel de Frambois. Gentillesse également du directeur.
Tout à fait. Alors, et le directeur, je vous rappelle, qui était là, qui est monté sur scène. Certains pourraient dire que c'était le syndrome de Stockholm, mais où un détenu, ils se sont fait une accolade très très sincère. Pichou, la personne qui se fait libérer, et on a mangé ensemble après, on a discuté. Une loi voulue par le peuple, appliquée, parce qu'on est dans un pays démocratique, on applique des lois qui ont été voulues par le peuple. Hein. C'est une responsabilité qui est nôtre. Les personnes qui sont chargées d'exécuter, et à Frambois, ce sont la plupart des gens, presque tous, il y a d'anciens requérants, des gens qui sont devenus réfugiés, et qui ont tous choisi d'être à cet endroit-là, parce qu'ils disent, je préfère que ça soit moi qui me charge de ce sale travail, pour qu'au moins jusqu'au bout, et on le sent, et c'est extrêmement sincère, ce travail, entre guillemets, soit bien fait, c'est-à-dire que cet accompagnement, il faut savoir qu'à Zurich, je reviens là-dessus, parce que c'est un endroit qui est effroyable, les gens sont mis à l'isolement 23 heures sur 24, on leur parle en dialecte, des gens qui ne parlent, ils ne voient pas des gens pendant des jours, on leur sert des repas à travers un petit guichet, les gens deviennent fous, ils se suicident, c'est absolument effroyable. On a vu des gens qui revenaient de Berne, il y a une prison centrale à Berne, n'avaient pas vu la lumière du jour pendant 6 mois. Je ne sais pas, on est en Suisse, c'est de la détention administrative, ces personnes n'ont fait aucun crime.
Mais vous comprenez ma question sur le contraste et sur le malaise que l'on peut ressentir en tant que spectateur.
Mais on serait tellement heureux qu'on voyait des gardiens qui leur tapent dessus, parce qu'au moins on pourrait dire, non mais je me fais l'avocat du diable.
Ça serait presque plus cohérent.
Ça serait presque plus cohérent, parce qu'on pourrait s'en prendre aux gardiens en disant, c'est à cause de ces gardiens que ces gens qui sont là. Ça nous renvoie simplement à nous-mêmes. Heureusement que ces gens sont là, qu'il reste encore un fond d'humanité. Et Denis, il est sincèrement... Savez-vous, c'est une scène que je n'ai pas mise dans le film parce qu'elle était difficile à structurer dans la dramaturgie, mais toute personne qui se fait expulser par vol spécial, la plupart des gens, ou le gardien ou la personne qui s'est fait expulser, appellent pour rassurer parce qu'ils savent que c'est une étape extrêmement délicate. Et quand les personnes, à la fin du film, voilà, on commence à savoir qu'on dit assez qu'il y a une personne qui est morte à la fin du film, ils sont profondément terrassés, enfin ils sont complètement bouleversés parce que pour eux, leur accompagnement a échoué.
Mais j'aimerais qu'on écoute très rapidement un deuxième extrait de vol spécial. Justement, on est plus ou moins à la fin du film avec Monsieur Claude, le directeur de Frambois, juste avant un départ forcé. Et vous verrez que les mots qu'il utilise sont très parlants aussi sur son malaise à lui.
Il y a la police, je ne vois ce qu'elle a. Ils vont mettre les bracelets,
oui.
Et puis départ pour le vol spécial. Ils vont vous chouchouter jusqu'au bout. Ça va comme ça?
Ça veut dire quoi, chuchoter?
Ah, ils vont s'occuper de vous.
Ah, d'accord.
Jusqu'à Kinshasa. Jusqu'à destination.
D'accord.
Là, on vous a organisé un voyage accompagné. Ça va?
Exactement.
Il y aura plein de monde avec vous.
Ok.
Ça joue?
Bon, on comprend bien que le mot chouchouter n'est pas tout à fait adéquat, Fernand Méliard, quand on voit votre film. Vous n'avez pas pu filmer les vols spéciaux, mais si j'ose dire, les vols spéciaux sont venus à vous, puisque le dernier jour du tournage, il y a eu un mort nigérian de 29 ans qui est décédé. Quand vous apprenez ça, quelles sont les questions éthiques, j'allais dire, de cinéaste que vous vous êtes posées?
Ben, je me suis dit heureusement que j'étais là, premièrement, pour témoigner de ça, parce qu'il se trouve peut-être que si j'avais pas été là, on en aurait peut-être un peu moins parlé, on en aurait fait peut-être un peu moins de bruit, je serais pas aujourd'hui autour de cette table, et puis on n'en ferait pas de larges échos dans la presse. Donc à partir de là, mon travail a été fait. C'était un tournage, comme la plupart des films que je fais, que si on pense à Exit, si on pense à La Forteresse, c'est des tournages qui me terrasse, qui nous terrasse, un travail d'équipe, c'est extrêmement difficile. Quelque part, quand on est là et qu'on sait à l'avance, le jeu était clair avec les détenus, ils savaient que, par exemple, nous, on savait à l'avance et qu'on ne pouvait pas leur dire. Voilà. Mais tout le monde dans le film participe, aussi bien employés que détenus, on a une certaine règle. Voilà. Nous, quelque part, on se retrouve dans une situation où on est, malgré nous, complice de ces systèmes. Mais mon travail, c'est un travail de cinéaste, hein, c'est un travail de documentariste. Je documente une situation, je suis là pour montrer ce qui se passe à l'intérieur et j'en ai le privilège, j'en ai le devoir de le faire.
Oui, mais au montage, quelle question vous vous êtes posée? Est-ce que vous vous êtes dit à un moment, est-ce que je pourrais la placer ailleurs? Est-ce que je veux absolument garder cette chronologie? Quelles sont les questions qui vous ont habité?
Vous savez, c'est comme vous qui faites votre métier, vous avez une feuille devant vous, il y a des questions. Quelles questions je vais poser au réalisateur que je vais recevoir? Évidemment qu'il y a toute une dramaturgie, c'est mon métier, comme votre métier le vôtre. Et j'essaye, je fais avant tout des films. Je ne suis pas quelqu'un qui est prêt à faire la révolution. Je fais des films qui sont engagés dans le sens où je fais une partie du travail, c'est-à-dire je fais un pas vers, mais je demande aussi à l'autre de faire un pas, qui est peut-être la différence avec un film militant où on va dicter une pensée, on va dire il faut penser ça de ça, je dois porter un jugement. Peut-être que des gens, ça leur dérange que dans le film, je n'ai pas ma voix qui dise c'est intolérable, il faut que ça cesse. Mais pour moi, je crois que le film parle de lui-même. Et d'ailleurs, ma voix est ce que je présente dans ce film. Donc, à partir de là, c'est clair que j'en ai fait des cauchemars, on en a fait des cauchemars. Et c'est cette mort paraît tellement irréelle à un moment quand elle est survenue. En plus, c'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Ça ne va pas minimiser l'affaire. Mais moi et nous tous, on était effondrés quand il y avait des visites de Pichou, bien de Yeton, qui reçoivent leur famille. Et quand nous, on raccompagnait la mère et l'enfant à la voiture et qu'on devait soutenir parce qu'ils ne pouvaient pas avancer tellement ils étaient en pleurs. Et nous, à partir de là, on posait la caméra et on rentrait à la maison. Et c'était effroyable à tenir. Et on a tenu 2 mois comme ça. Et donc, pour vous dire que des gens qui travaillent là-dedans, je peux vous dire qu'ils ne le font pas avec cynisme. Et pour eux, et ils le disent dans le film, et ils ne le font pas pour la caméra, c'est très dur d'être là-bas. Ils font ce boulot parce qu'on le veut et le peuple a décidé. Et on voudrait nous représenter les personnes qui sont à l'intérieur sous forme de moutons noirs, sous forme de rats dans ce canton. On est au Tessin, on représente les requérants d'asile sous forme de rats sur les affiches. On les présente sous forme de corbeaux. Et d'un coup, on découvre que ce sont des êtres humains. On découvre que c'est des pères, que c'est des mères, que c'est des enfants, que ce sont des familles brisées et que c'est notre système démocratique qui a produit ça. Et je pense qu'aujourd'hui, j'espère vraiment qu'il y ait un sursaut de conscience quand même, un minimum.
Mais c'est très important, justement, je trouve que dans ton film, à un moment donné, les gens qui accompagnent les requérants disent « Mais j'applique la loi que vous, les Suisses, que les Suisses ont voté. » Et je trouve que ça permet de se remettre en fait en face de la situation et de pas esquiver en disant « Oui, bon, mais bon, vous pouvez pas savoir, c'est le système judiciaire qui veut ça. » Et justement, par rapport à l'espèce de très très grande gentillesse des gens, bah, je trouve ça le coup de poing, il arrive vraiment dans la figure des spectateurs pour dire « Ok, bah maintenant c'est à nous d'agir vraiment. » quoi. C'est... Ouais, très beau film.
Oui, c'est que ça crée un sentiment chez le spectateur de révolte. Et on a l'impression que la situation est cynique. Le mot loin, évidemment, on pense aussi à la distance géographique, c'est pour ça. Mais moi, j'ai pas du tout pensé à aucun moment que les gardiens faisaient leur métier de manière cynique. Consciemment, c'est pas ça que je voulais dire.
D'accord. Frédéric Chauffin ?
Non, mais je pourrais réagir par ça. Moi, j'ai été terrassé. Enfin, là, on sent que c'est grave parce que j'ai rien d'autre à dire sur ce film qui est très, très beau. Mais c'est un film aussi où on rit énormément. C'est un film qui nous prend par tous les côtés. C'est-à-dire qu'il y a la révolte et j'adore cette révolte de Fernand-là. Et je l'ai eue, je la ressens de manière continue au fil de l'année. Mais encore plus après un film comme ça, et elle est nécessaire pour faire bouger les choses, pour qu'on réagisse au jour le jour, qu'on réfléchisse quand on vote, qu'on réfléchisse quand on est face à ces 30% de députés qui font partie d'un parti où on a des affiches horribles, enfin, qu'on soit en face de cette réalité-là. Mais par rapport à ce que vous évoquiez de cette douceur
Cette humanité.
Cette humanité dans cette prison m'évoquait vraiment la description du Renmat de la Suisse lorsqu'il a fait son discours avec la Wavel en disant la Suisse est une prison, mais on n'est pas les prisonniers. Le Suisse est son geôlier. Il fait le tour tous les jours du pays et il surveille que personne ne puisse sortir, mais il surveille que lui-même ne puisse pas en sortir. Et c'est ça quand parfois on est à l'étranger en disant mais en Suisse il y a plein de choses merveilleuses, mais des fois on étouffe. Puis on dit mais attends, vous avez tout ce qu'il vous faut, de quoi vous vous plaignez, tout va bien. Et là j'avais l'impression, tant qu'on est dans la prison, on se dit mais c'est merveilleux. Ils vont à un endroit, ils disent j'aimerais deux cuisses de poulet, on leur donne deux cuisses de poulet, ils peuvent faire leur nourriture, ils peuvent faire leur truc. Et c'est seulement quand on est avec la famille et qu'on sort derrière les grilles qu'on se rappelle que l'endroit où on est, finalement, c'est pas le centre du monde, c'est une sorte de cage, et que c'est seulement quand la caméra sort de cette cage qu'on se dit « Ah, les gars, ils jouent au basket, mais ils ont quatre grilles de barbelés qui les empêchent d'être en contact avec l'extérieur. » Et quand on ressent ça tout d'un coup et qu'on quitte cette sorte de gentillesse, c'est d'autant plus bouleversant, quoi.
Puisque vous avez la parole, je vous propose de garder la parole, Frédéric Chauffat, puisqu'on va parler de votre film à vous, Mangrove, que vous co-signez avec Julie Gilbert, qui a écrit le scénario, ou plutôt l'histoire de ce film, également sélectionné en compétition internationale à Locarno, et que le public pourra découvrir dès demain. Restez également avec nous si vous pouvez. Non, vous devez partir ? Avec le micro, c'est mieux.
Je suis à vous, mais j'avais l'impression d'un moment de monopoliser la parole. Parce que si vous me lancez là-dessus,
on va parler jusqu'au bout de la nuit. Il y a tellement de choses à dire.
Tout est calculé, tout est sous contrôle. Donc, là,
quand sort votre spécial en salle hein
21 septembre.
D'accord.
J'allais le dire.
Vraiment, dans la Suisse. Allez le voir.
Et Mangrove hein
Le 17 août, la semaine prochaine.
Allez le voir.
Le prochain.
Vous travaillez tous deux, Julie Gilbert, Frédéric Chauffat, depuis de nombreuses années. Vous connaissez bien, vous avez déjà réalisé des films ensemble. C'est votre deuxième long métrage. C'est vous, Julie Gilbert, hein, je le disais, qui avez écrit l'histoire de cette femme qui retourne dans son pays. On ne sait pas tout de suite que c'est le Mexique. Ce n'est pas vraiment important d'ailleurs de savoir que c'est le Mexique. On sent qu'elle est à la recherche de quelque chose d'important pour elle, qui a du sens hein, pour sa vie. L'impression qu'elle doit refermer une plaie ouverte depuis un drame. On va d'ailleurs comprendre au fur et à mesure que le film avance. Le film va nous donner quelques clés au fur et à mesure, hein, mais le film ne donne pas toutes les clés. Je voulais vous demander comment vous étiez venue cette histoire-là.
Alors, cette histoire, elle m'est venue d'une part parce que j'ai vécu la plupart de mon, enfin, quasiment toute mon enfance au Mexique. Donc, c'est un lieu que je connaissais très bien. C'est sur la côte du Pacifique. Et depuis quelques années, on écrivait une histoire autour du deuil. Et cette question de comment faire le deuil, comment vivre son deuil, comment être en rapport avec la mort, c'est quelque chose, c'est vrai, qui traverse aussi pas mal de nos histoires et de nos films. Donc, l'histoire, elle est venue comme ça. Et ce qui est un petit peu particulier pour ce film-là, c'est que j'ai pas écrit de scénario réellement. C'est-à-dire, j'ai écrit vraiment une nouvelle très littéraire, très visuelle, qu'ensuite on a adapté quasiment en direct au moment de tourner avec la toute petite équipe que nous étions.
Il y a très peu de dialogue dans ce film, quelque chose de plutôt risqué. C'était déjà le cas dans la nouvelle. C'est quelque chose qui s'est imposé. De quelle manière ?
Mais on est parti vraiment sur un coup de tête, mais tout le monde disait vous êtes fous, vous n'avez pas l'argent. Et on est parti avec cette histoire, cette envie très forte de la raconter. Et on avait envie d'essayer d'aller le plus loin possible dans comment raconter un récit avec le moins de moyens possible, avec le moins de paroles.
Mais c'est quoi qui vous portait dans cette histoire ? Parce que c'est assez casse-gueule hein, comme récit.
Au niveau du récit ?
Oui.
Au niveau de quelles sont nos appartenances ? Nous, on est des exilés ou des apatrides permanents, en étant un peu là, un peu là-bas. Et de tout d'un coup, de renverser le point de vue, c'est une Suisse française qui va sur la côte du Mexique où elle a grandi. Et le deuil, il y a le deuil du lieu, il y a le deuil de l'être aimé. Et c'était comment on arrive à raconter ça, mais plus que le récit, plus que le thriller de ce que ça peut raconter, c'est comment on peut essayer d'entrer dans l'histoire en racontant l'histoire par l'image, par le son, par autre chose que par la narration pure.
Raphaël Mouchet.
Oui, je voulais vous demander quelles indications vous aviez données à votre comédienne Vima Lapons au moment du tournage. Est-ce qu'elle en savait plus que le spectateur ou est-ce que vous lui donniez des informations au fil du récit ? Comment ça se passait ?
Non, là, je ne suis pas du tout pour, après c'est de la cuisine, mais pour cacher les informations et puis faire des sortes de surprises. On travaille vraiment le personnage en avance, on essaie de construire qui il est, de lui faire son background, donc vraiment qu'elle ait le plus de clés possible, parce que je pense qu'une bonne comédienne, en l'occurrence c'est la seule comédienne, tous les autres étaient des non-comédiens sur le tournage, ou des gens qui étaient de la plage en fait, qu'on a engagé sur place, c'était la seule qui a ce métier, qui a cet outil, et un bon ou une bonne comédienne, eh bien il faut lui donner à manger, il faut lui donner justement la nourriture pour qu'elle puisse employer ses outils, pour qu'elle puisse transcender son personnage, et puis entre ce qu'on a écrit, entre ce que je filme et ce qu'elle joue, qu'il se passe réellement quelque chose de nouveau, quelque chose qui se trouve là au milieu, quoi.
Il y a une atmosphère, je trouve, qui est très forte et très pesante et très réussie. Dans ce film, je propose qu'on mette un tout petit extrait. Alors, il y a peu de dialogue, mais on va tendre l'oreille. On est souvent dans la nuit, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Le soir, on entend le bruit des insectes et on se retrouve très bien quand on est en voyage, sac à dos, au bout du monde.
Oui, vous aviez parlé de Frédéric Chauffat d'entrer dans le film par d'autres biais, par exemple le son. Comment vous avez travaillé l'atmosphère sonore du film ?
Alors, on a travaillé avec un ami italo-colombien qui vit au Mexique, qui s'appelle Katia Manzuto, qui a grandi et qui vit là-bas, et à qui on a demandé de faire le son. Donc, dans cette équipe où on était, Patrick Trèche, qui est là derrière, qui faisait la lumière, Julie et moi au cadre. Christian Monsuto au son et un assistant régisseur qui faisait tout le reste, en fait. On était ces quatre là et il a travaillé en prenant le plus de son possible en stéréo, dans ces ambiances, des moments où on était là, en l'occurrence on est sur une pirogue, personne ne bouge, il y a des crocodiles autour, on se tait et on enregistre 5 minutes, 10 minutes tout d'un coup de grenouilles, de criquets, d'oiseaux qui passent. Et après, c'est tout le travail du mixage, de construire une musique avec ce son-là, de faire exister la matière, de rendre l'ambiance moite.
Mais surtout avec aussi Pierre Odetta, justement, qui est entré en résonance avec justement ce son très particulier de la mangrove, de la plage, où il y a effectivement énormément d'insectes, d'animaux tout le temps qui crépitent comme ça dans la nuit. Donc Pierre, en fait, il a vraiment travaillé avec cette idée de rentrer en résonance et d'entrer dans ce monde. On voulait que ce soit très magique. C'est vraiment un film effectivement contemplatif où on rentre dans un voyage, on rentre dans une atmosphère plus que dans une histoire. Et finalement, le propos de l'histoire, il est très ténu, il n'est pas essentiel. Et ce qui nous importait, c'était de raconter en fait cette espèce de la façon dont tout d'un coup on peut entrer dans un monde qui est presque intangible et qui est le monde peut-être du passé, du présent.
Et vous dites peut-être, et moi ce que j'aime beaucoup dans votre film, c'est que précisément vous faites à la fois confiance à vos images, vous donnez très peu d'explications, mais vous faites aussi confiance à l'intelligence du spectateur.
Oui. C'est sûr qu'on n'avait pas envie de donner, de faire un film extrêmement construit en balisant en fait les différentes étapes, ce qui est très intéressant aussi. Mais c'est vrai que c'était pas du tout le propos de ce film-là. C'était beaucoup plus un film, je dirais, poétique d'atmosphère.
Et on se bat pour la phrase de Pasolini citée tout à l'heure par Melgar, la culture et la résistance au divertissement. Donc arrêtons de tout mâcher et réfléchissons, faisons travailler, faisons penser.
Mais ça marche malgré le peu de dialogue, là, une certaine lenteur également. On est pris, il y a malgré tout un suspense, une dramaturgie qui nous emmène. Et puis il y a la bande-son qui est importante et il y a des images qui sont parfois proches des tableaux. Beaucoup de jeux sur la lumière et il y a un côté presque un peu impressionniste des images. Vous êtes d'accord avec ça, Frédéric Chauffat ?
Oui, alors tout s'est fait de cette manière très légère. On a filmé sous conseil et direction de Patrick Trèche avec un appareil de photo, donc ce qui réduisait vraiment la légèreté et les coûts au maximum. Une caméra à 2500 francs qui a permis de faire tout le film. Et en travaillant énormément justement sur la netteté, sur les couleurs, et donner l'impression d'être à l'intérieur du personnage, d'être vraiment... On quitte l'objectivité de la caméra qui regarde et on entre dans le subjectif, on entre dans ses pensées, on entre dans ses fantômes. Et vraiment de faire corps avec ce personnage-là.
Raphaël
Boucher. Quel était le moment le plus difficile pour vous ? C'était la mise en place du projet, le tournage ou le travail après en laboratoire ?
La mise en place, elle a été extrêmement facile parce qu'on sortait justement d'un projet de film qu'on ne fera jamais et sur lequel on a travaillé énormément et qui s'est fait refuser, vraiment jeté à la poubelle et qui était extrêmement construit. En fait, c'est sorti un petit peu de cette rage de se dire, mais ce qui est important pour un cinéaste, c'est de filmer, c'est de prendre sa caméra, c'est d'être en contact avec des comédiens. Donc on est parti avec vraiment une bourse en fait, une bourse de la ville de Genève qui a fait en fait le point de départ, la TSR qui a suivi derrière, et grâce à ça en fait on a pu partir. Et finalement le film sur place s'est fait assez facilement et rapidement, et pareil, il y a eu beaucoup de boulot de post-production en fait. C'est là où ça a été le plus long.
Oui, et puis comme c'est un travail de petite équipe, on est deux, on est nos propres producteurs, on est nos réalisateurs, on est nos critiques, on est nos financiers, on fait nos budgets, on fait notre comptabilité. Il y a plein de gens qui nous ont aidés et à qui on a donné des petits coups de main. Donc peut-être le plus dur, c'est au moment donné où le film était presque fini de monter, mais on l'avait encore montré à personne, et on n'avait aucun moyen pour payer les gens pour la suite du travail, pour le continuer. Et c'est là où on a commencé à le monter. Il y a eu 2-3 mois de flottement, on a pensé qu'on arrêtait le cinéma, c'était trop difficile, pour tout d'un coup retrouver d'autres pistes qui nous ont permis tout d'un coup, les festivals, les différentes personnes ont vu le film et ont dit « on vous aide, c'est super ».
Merci beaucoup Frédéric Chauffat, Julie Gilbert, nous a parlé de Mangrove. Le temps passe très vite. Mm-hmm. Redonnez-moi juste la date de sortie en Suisse pour ce film, 17 août.
Alors, le 17 août, il sort à Lausanne, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Tramelan et Genève. On fait une première le 17 à Genève et les jours suivants respectivement à Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds.